message que j'avais donné, mais finalement, je me suis aperçu qu'il restait plus que 10 minutes du message. Donc, ceux qui n'ont pas Internet, vous n'aurez pas la fin. Ceux qui ont Internet, ben, vous irez sur le site. Le message est au complet. Alors, je ne vais pas vous donner 10 minutes ce matin, puis commencer un nouveau et terminer la semaine prochaine. Donc, on va regarder celui-là ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le pouvoir de guérison de la prière ». Le pouvoir de guérison de la prière. Vous êtes amen à ça? Le pouvoir de guérison de la prière. Il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. » Bon, on va mettre ça un peu plus en français. Hein? Il a prié, il a insisté, il a persévéré et la pluie n'est pas tombée. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Hein, c'est dangereux quand Élie commence à prier. Hein? 3 ans et 6 mois. Voilà. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Hey, frères et sœurs, c'est-tu encourageant cette prière-là? C'est-tu encourageant? Un simple mortel, comme vous et moi qui se met à prier. Et le Seigneur, qui tient l'univers dans ses mains, entend sa prière. Et il lui demande de fermer les cieux pendant 3 ans et demi. Le Seigneur ferme les cieux pendant 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, il recommence à prier. Il dit, « OK, Seigneur, tu peux ouvrir. » Et le Seigneur ouvre les cieux. Pas extraordinaire. Alors, vous imaginez si le Seigneur exaucait ce genre de prière réunie, à combien plus forte raison toutes nos petites prières, à combien plus forte raison le Seigneur prend plaisir à les exaucer. Et Jacques nous parle de choses importantes qu'on oublie souvent au fil des années. Dans ce passage, Jacques, je dirais que c'est l'épître la plus pratique qui existe dans le Nouveau Testament. C'est très, très pratique. Et on va regarder ensemble le côté pratique de ce que Jacques veut nous enseigner ce matin. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, te remercier, Seigneur, pour cette capacité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, dans notre union avec Jésus-Christ, de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir aussi t'entendre nous parler à travers ta parole. Et de voir aussi combien tu veux nous bénir richement. Merci Seigneur, parce que te prier, c'est aussi donner autorité d'agir dans nos vies et dans la vie des autres autour de nous. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous. Et Seigneur, que nous puissions vraiment sortir de ce lieu tous ici, individuellement, en ayant la certitude que tu nous as visités, que tu nous as rencontrés. Parce que tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous savons que ce n'est pas une fable, parce que Jésus est vivant, donc il est au milieu de nous ce matin. Et nous voulons qu'il règne non seulement dans ce lieu, mais aussi dans chacune de nos vies. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Je crois fermement, frères et sœurs, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il est le Seigneur, notre Dieu, qui peut guérir toutes nos maladies. Je crois que Dieu guérit miraculeusement et qu'il soulage la souffrance des gens à travers la médecine. Et je remercie Dieu pour les médecins. Je crois que Dieu m'a guéri en réponse à ma prière. Je crois que certains d'entre vous qui êtes ici ce matin, vous avez été guéris à cause des prières des frères et des sœurs en Jésus-Christ et que Dieu ne serait pas intervenu si ses frères et sœurs n'avaient pas prié pour vous. Frères et sœurs, je crois que plusieurs d'entre nous sommes passés à côté de beaucoup de bénédictions dans le passé parce que nous n'avons pas saisi le pouvoir de guérison qui se trouve dans la prière. La prière, elle est une force puissante. Frères et sœurs, c'est quelque chose, c'est un privilège qui vous est donné, qui n'est pas donné à aucune religion, qui n'est pas donné à aucune personne dans le monde. La prière, elle est donnée aux enfants de Dieu. Elle est une force puissante dans nos vies. Amen. Elle est une force puissante qu'on sous-estime parce qu'on a été élevé à y aller toujours par nos propres forces. Alors que ce que Dieu veut à chaque jour, c'est manifester sa puissance dans chacune de nos vies. Le pasteur, à travers la prière, nous échangeons notre capacité naturelle avec Dieu pour recevoir la puissance surnaturelle de Dieu. Un pasteur que peut-être les jeunes ne connaissent pas bien, mais que les plus vieux connaissent, c'est le pasteur Ruben Tarry, a dit « Lorsque nous prions, il n'y a rien qui soit hors de notre portée, sauf ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. » C'est intéressant ça, hein? Quand nous prions, il n'y a rien qui est hors de notre portée. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas recevoir, sauf ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et quand vous réfléchissez à ça, là, c'est un homme de prière qui parle. Ruben Torrey, c'est celui qui a remplacé Dwight L. Moody à l'Institut biblique Moody. C'était un homme de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Il n'y a rien dans la prière qui est hors de notre portée, sauf ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous imaginez les capacités incroyables? Vous imaginez les richesses incroyables que Dieu veut déverser sur son peuple, que Dieu veut donner à ses enfants pour qu'ils puissent les faire partager aux autres autour d'eux? Le message de ce matin traite de la puissance de la prière. Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a plus que la guérison du corps. Il y a des âmes qui ont besoin d'être guéries. Il y a des églises qui ont besoin d'être guéries. Il y a des familles qui ont besoin d'être guéries. Il y a des relations qui ont besoin d'être guéries. Il y a des esprits qui ont besoin d'être guéris. Il y a des pensées qui ont besoin d'être guéries. Et il y a des corps qui ont aussi besoin d'être guéris. La première chose que Jacques nous fait remarquer dans son passage ici, c'est que la confession précède ce genre de guérison. Lisons à nouveau la première partie du verset 16, si vous voulez, pour ceux qui ont leur Bible. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas un ordre que le pasteur vous donne ce matin. C'est écrit dans l'Épître de Jacques. Et ça nous chatouille de confesser nos péchés les uns aux autres. N'est-ce pas? Frères et sœurs, c'est peut-être la raison pour laquelle nous ne voyons pas plus de guérison dans nos églises. C'est probablement la raison pour laquelle nous ne voyons pas plus de prières être répondues dans le domaine de la guérison. Nous sommes doués pour dissimuler nos péchés plutôt que de les confesser. Nous aimons critiquer nos amis et fustiger nos ennemis, mais nous n'aimons pas confesser nos fautes, et pourtant il est écrit nulle part que nous pouvons critiquer nos amis et fustiger nos ennemis. Il est écrit que nous devons confesser nos choses, et c'est la dernière chose que nous sommes disposés à faire. Pour nous couvrir, nous disons que l'erreur est humaine ou que Dieu lit dans nos cœurs. Nous ne voulons pas confesser nos fautes et pourtant, je peux vous dire que nous voyons des résultats concrets, lorsque nous obéissons à ce que Jacques dit ici dans son épître, lorsque nous confessons nos fautes. La première chose que nous voyons dans ce passage ce matin, c'est qu'il y a une restauration et qu'il y a une guérison lorsqu'il y a confession des péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, si vous lisez le passage, vous allez le comprendre comme moi. Il y a restauration et il y a guérison quand il y a confession des péchés. Vous êtes amen? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dieu peut guérir nos familles. Dieu peut guérir nos relations. Dieu peut guérir nos pensées. Dieu peut guérir nos esprits et Dieu peut guérir nos corps. Non seulement, frères et sœurs, y a-t-il une restauration, mais il y a aussi une réconciliation. Savez-vous que lorsque nous commençons à confesser nos fautes, Dieu nous rassemble ensemble les uns les autres? Il y a beaucoup de gens qui ont de la rancune ou de la colère, et ces mauvais sentiments finissent par produire du pu et encore du pu. Lorsque nous commençons à confesser nos fautes les uns les autres, nous découvrons que les blessures remplies de pu, d'animosité, de colère et de rancune commencent à fondre et à disparaître. Là où il y a restauration, il y a réconciliation, il y a aussi réveil qui voit le jour dans nos vies. Un réveil qui se produit dans nos propres vies, lorsque nous confessons nos fautes les uns aux autres et que nous prions les uns pour les autres. Si vous étudiez l'histoire des réveils, vous découvrirez que chaque grand réveil, sans exception, est caractérisé et alimenté par une seule et unique chose, une confession des péchés les uns aux autres. La plupart d'entre nous, nous essayons de sauver la face et c'est la seule chose que nous avons besoin de perdre. La plupart d'entre nous, nous essayons de garder notre dignité plutôt que de vivre un réveil. Et de garder notre dignité, c'est de l'orgueil. Je me souviens avoir lu le grand réveil que les missionnaires Charlie Culpepper et Bertha Smith ont vécu lors du grand réveil de Shantung en Chine en 1920. Tous les deux affirment que ce réveil fut si puissant que les missionnaires ont commencé à confesser leurs fautes les uns aux autres et qu'ils ont ensuite prié les uns pour les autres. Frères et sœurs, vous pensez que je suis en train de vous charrier? Tournez dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. C'est ça un réveil. Actes 19, 18 à 19. Où un grand réveil a eu lieu à cette époque. Un réveil puissant. Pas longtemps après la Pentecôte. Et regardez ce que les gens ont fait. Il est écrit, Acte 19, versets 18 et 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Quel fut le résultat de leur confession et de leur repentance, frères et sœurs? Regardez la suite. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Quel fut le résultat de tout ceci, frères et sœurs? Verset 20. La parole du Seigneur se répandait et elle avait une puissance parce qu'il y avait eu confession dans l'Église. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vrai réveil? Savez-vous ce que c'est qu'un puissant réveil? C'est pas seulement enlever le toit de nos cœurs, c'est aussi faire tomber les murs. Vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Frères et sœurs, trop souvent, nous nous contentons de confesser nos péchés ou nos fautes au Seigneur et nous sommes heureux d'avoir ouvert le toit de notre cœur. Mais nous ne voulons pas faire tomber les murs, parce que les murs, c'est ce que les autres, c'est ce que les frères et sœurs peuvent voir dans nos cœurs. On est intéressé à enlever le toit parce que c'est entre nous et Dieu, mais de faire tomber les murs de notre cœur pour que les autres puissent voir ce qui ne va pas dans nos vies. Où on pourrait trouver de l'aide, où on pourrait trouver de la compassion, où on pourrait trouver des frères qui s'offriraient de prier pour nous. Les murs, on les garde. On les garde. On les garde fermés. En d'autres mots, on ne veut pas que quelqu'un sache ce qu'il y a dans nos cœurs et nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre sache que nous sommes tombés. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre connaisse nos fautes et nous refusons de faire tomber les murs. Mes chers amis, un vrai réveil, un véritable réveil, un réveil qui vient d'en haut, un réveil qui guérit, un réveil qui restaure, un réveil qui réconcilie, un réveil où nous voyons les chrétiens confesser leurs fautes, non seulement à Dieu, mais aussi les uns les autres. Ça, c'est un véritable réveil. Ayant dit cela, j'aimerais ajouter quelque chose concernant la confession des péchés. La confession des péchés a besoin de demeurer dans le cercle des péchés. Et là, ça va peut-être soulager plusieurs personnes. Parce que le diable peut même utiliser la confession des péchés à son avantage si les gens ne sont pas sages et ne se conforment pas à ce que dit la Bible. Il est écrit nulle part que nous devons dévoiler nos péchés à tout le monde sans faire aucune distinction. Nulle part c'est écrit. Par exemple, si vous avez un péché privé, vous devez le confesser à Dieu seul. Un péché d'immoralité seul, vous le confessez à Dieu seul. Un péché qui ne concerne pas vos frères ni vos sœurs, vous le confessez à Dieu seul. Un péché personnel, c'est-à-dire avec une personne, vous avez péché contre quelqu'un dans votre cœur, eh bien là, vous devez aller trouver la personne. Si j'ai péché contre Paul, je confesse mon péché à Paul. Je dois le dire à Paul et à lui seul et lui demander de me pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que si j'ai médit contre mon frère Paul et que je m'amuse simplement à le confesser à Dieu, je vais continuer à médire contre mon frère Paul. Mais si je vais trouver mon frère Paul, je lui dis, écoute, j'ai parlé en mal de toi, Paul, et dans l'amour de Jésus-Christ, est-ce que tu veux bien me pardonner? Si c'est un frère en Christ, il va dire oui. Mais vous savez quel effet que ça a, ça? C'est qu'avant de médire la prochaine fois contre mon frère à Paul, je vais me souvenir que si je commets ce péché-là encore une fois, je vais devoir encore aller le trouver pour lui confesser ce péché. Et ça va me retenir encore beaucoup plus, sinon me délivrer de recommencer ce même péché contre mon frère Paul. Mais si je le confesse uniquement à Dieu, quelle déculpabilisation facile! Je médite contre tout le monde, puis soit je rentre avant de me coucher pour faire de cauchemars. Seigneur, tu as vu ce que j'ai dit durant toute ma journée? Hein? Ben, allez, ça, allez, prends tout ça, Seigneur, je te demande pardon. Hey, c'est... Quelle confession des péchés, frères et sœurs, c'est épouvantable. Mais c'est la façon biblique de fonctionner. Ça ne va pas creuser un fossé entre moi et Paul, si je vais le voir. Ça va tisser plutôt un lien d'amour entre moi et lui. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me confessent certains sentiments ou certains ressentiments qu'ils ont eus envers moi. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui l'a fait. Pendant des années, il y avait du ressentiment envers moi. Et il est venu le confesser, il est venu me demander pardon. Et je dois vous dire que non seulement j'aime encore ce frère-là, mais je l'aime davantage et je l'estime davantage aujourd'hui. Parce que j'imagine la torture qu'on peut avoir lorsqu'on a quelque chose contre quelqu'un et qu'on le garde uniquement dans notre cœur. Amen. C'est vrai. Je te demande pardon, c'est simple à dire. Hein? Je te demande pardon. C'est simple à dire. Hein? C'est simple à dire. Mais c'est pas facile à faire. Vous savez pourquoi? C'est dommage, j'ai juste un billet de 10 aujourd'hui dans mes poches. C'est la vie des pasteurs. Vous savez ce que ça coûte de demander pardon à Dieu? Demander pardon à un confrère, à une sœur en Christ? Ouvrir notre cœur, mettre notre orgueil de côté. Il dit, mon frère, j'ai sali ta réputation, je te demande pardon. Et ceux à qui j'ai sali ta réputation, je vais aller le trouver, je vais leur demander pardon. Que dans la possibilité, Dieu puisse leur faire oublier les paroles méchantes que j'ai dites à ton égard. Parce que j'ai compris que la calomnie dans la parole, c'est un meurtre pour le Seigneur. La calomnie dans la parole, j'ai compris que c'est tuer la réputation de quelqu'un. Et j'espère que Dieu va ressusciter ta réputation. Parce que ton frère en Christ le salue. Ça ne coûte rien. Il y a seulement qu'en Jésus-Christ qu'on est capable de faire ça. Il y a seulement quelqu'un qui est né de nouveau qui peut se faire ce pas-là. Et c'est le début d'un réveil dans la vie de quelqu'un et dans la vie de l'autre. Les deux vont être un sujet de bénédiction. Mon frère, s'il est en Christ, il va dire, je te demande, je te pardonne, mon frère. Je te pardonne parce qu'il va entendre l'Esprit qui va lui dire, t'es pas mieux que lui. Lui, c'est un péché de calomnie, toi, t'en as d'autres. Et je vais peut-être susciter dans le cœur de mon frère, de ma soeur, d'aller voir quelqu'un dont lui a commis un péché, qu'il n'avait pas le courage d'aller voir. Il va aller le trouver, il va lui demander pardon. Vous pensez que tant et si longtemps on ne fait pas ça, on a une bonne communion avec le Seigneur? Oui. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Non. Il est déjà arrivé dans la deuxième église où j'ai vécu de juger toute l'église. Le pasteur m'avait dit, écoute, tu peux commencer à présider. J'avais présidé, puis finalement, les gens ne réagissaient pas trop bien. J'avais dit durant la semaine, c'est une église qui est morte. Les gens sont tous morts. Il n'y a rien à faire avec cette église-là. Et je devais présider la semaine d'après. Et là, toute la semaine, le Saint-Esprit m'a dit, tu dis rien en haut tant que tu ne demandes pas pardon à tout le monde. Tu es jeune chrétien, hein? J'avais peut-être 2 ans. Et là, je vais voir le pasteur avant que le culte commence. Je lui dis, écoutez, j'ai quelque chose d'important à dire à l'Assemblée. Il est allé s'enfermer dans la cabine où on écoutait les messages, quoi. Et j'ai simplement demandé pardon à l'Assemblée de les avoir accusés d'être morts, qu'ils n'avaient pas la vie du Seigneur en eux. Vous pensez qu'on m'a condamné, qu'on m'a jugé? Les frères sont venus me voir, ils m'ont remercié pour ma franchise. Ça a aidé certains. Et moi, ça m'a fait grandir. Et ça a augmenté la confiance que les gens pouvaient avoir en moi. Ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de secret entre moi et eux. Et c'est important. Frères et sœurs, on fait partie de la même famille. Pourquoi on aurait des secrets? Vous êtes des êtres humains. Aussi faibles, sinon moins faibles que moi. Pourquoi on devrait se cacher des choses? De peur qu'on nous empêche d'aller dans un ministère? De peur qu'on mette en doute notre salut? Hey, c'est avec le Seigneur, ça. Frère, lorsque le péché est public, par contre, il a besoin d'être confessé publiquement. Lorsque quelqu'un a péché ouvertement et publiquement, alors non seulement il a besoin de se mettre en règle avec Dieu, mais il a ensuite besoin de se mettre en règle avec les membres de l'Église. Il a besoin de le confesser à l'Église. Quel jour ce sera dans nos Églises lorsque la confession remplacera la critique et que la compassion remplacera la condamnation? Nous avons besoin d'apprendre à confesser nos fautes les uns les autres et prier les uns pour les autres. Jacques nous a parlé ici de la confession qui précède la guérison. Il va maintenant nous parler de l'intercession qui assure la guérison. Regardez avec moi, verset 16. Il parle maintenant de l'intercession qui assure la guérison. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Peut-être des gens qui dépriment ce matin ici dans ce lieu. Allez voir un frère, allez voir une sœur. Demandez qu'il prie pour vous. Priez avec lui. Ce n'est pas juste de prendre nos sujets de prière, nos fardeaux, puis les lancer à tout le monde. On a besoin de prier les uns pour les uns et les autres ensemble, mais prier les uns pour les autres aussi. La confession d'une faute n'est pas un appel à la critique, c'est un appel à la prière, et Dieu veut que nous prions, que nous le prions et nous encourage à le faire. Frères et sœurs, la prière, ce n'est pas un service que nous rendons à quelqu'un, c'est plutôt une façon de le servir. La prière ne nous prépare pas au ministère, elle est un ministère en elle-même. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés au ministère, parce que nous sommes tous appelés à prier les uns pour les autres. C'est le ministère le plus important que vous puissiez avoir et vous pouvez faire encore davantage de choses après avoir prié, mais vous ne pouvez pas faire plus tant et aussi longtemps que vous n'avez pas prié, parce que je vais vous donner une règle qui vient de Dieu ce matin. Dieu répond uniquement. Dieu agit uniquement en réponse aux prières de ses enfants. Dieu agit uniquement en réponse aux prières de ses enfants. Si vous ne priez pas, ne vous demandez pas pourquoi Dieu n'agit pas dans vos vies. Dieu, ce n'est pas un papa gâteau. Dieu a assez souffert. Il a assez souffert. Il nous a créés. Il sait ce qu'il veut nous donner. C'est nous qui refusons souvent de prendre parce qu'on ne prie pas, parce qu'on n'intercède pas. Mais Dieu veut nous donner, veut nous bénir. Dieu ne veut pas nous maudire. Christ a pris la malédiction qu'on méritait, qui pesait sur nous à cause de notre péché. Et en retour, il nous donne la bénédiction qui revenait à Jésus, nous la donne à nous. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés au ministère de la prière. Frères et sœurs, les malades ont besoin d'autre chose de plus que notre pitié. Ils ont besoin de nos prières. Et ceux qui vivent dans le péché ont besoin d'autre chose de plus que notre compassion. Ils ont besoin de nos prières. Et Jacques nous enseigne clairement que nous devons prier les uns pour les autres. Paul écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il est tombé, on ne lui donne pas le coup de hache qui va l'achever. Paul il dit, « Pourquoi qu'on ne doit pas le faire? Parce que fais attention, parce que ton tour viendra aussi peut-être un jour. Et tu ne voudras pas qu'on t'achève parce que tu as péché, tu voudras qu'on te reprenne avec douceur. » Et le Seigneur, avant de nous donner un coup, il nous reprend avec douceur, il nous reprend avec douceur, il nous reprend avec douceur. Et quand il voit qu'on est entêté, bien lui, il est beaucoup plus entêté que nous, il y a un entêtement qui est éternel, et bien il vient nous retrouver, et là, il nous en donne une petite sur les fesses. Et si ça ne fait pas, il nous en donne une plus grosse sur les fesses. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, il châtie. S'il ne nous aime pas, bien il ne nous châtierait pas. Mes parents n'ont peut-être pas eu la bonne méthode avec moi, mais je peux dire une chose. Je suis convaincu que mes parents m'aimaient beaucoup. Ils m'aimaient peut-être trop. Mais ils m'aimaient beaucoup. Et je rends grâce dans mes prières aujourd'hui au Seigneur de m'avoir donné les parents que j'ai eus. On était 8 enfants. Ma mère a dû négliger les 7 autres pour s'occuper de moi. J'ai eu des parents extraordinaires. Malgré que je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'ils ont fait, j'ai eu des parents extraordinaires et je n'aurais pas changé de parents pour tout l'heure du monde. Aujourd'hui, on a un enfant, on a de la difficulté à élever un enfant. Mes parents en avaient 8. Ma mère a eu 11 grossesses en 13 ans, elle a 8 enfants. Elle n'avait pas le temps de s'occuper, puis de nous dorloter, me donner de l'affection à tous et chacun. Il y en a un qui accouchait, elle avait un autre dans les bras un an après. C'était continuellement comme ça. Le mouton noir, c'était le premier, c'était moi. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné des parents pareils. Quelle sorte de prière doit-on faire? Regardez cette prière d'intercession, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques nous dit exactement ce que la prière doit être. Notre prière, elle doit être fervente. C'est-à-dire une prière qui vient du cœur et qui veut gagner le cœur de Dieu. Frères et sœurs, ça, c'est la prière efficace. C'est celle qui est la prière efficace, c'est celle qui obtient de Dieu la bénédiction demandée. C'est cette prière de la foi qui fait mouver. Mouver? Non. Ça, c'est québécois, qui fait bouger le bras de Dieu, voilà, qui fait bouger le bras de Dieu. La prière efficace, c'est celle qui atteint le but qu'elle poursuit, qui obtient de Dieu l'exaucement. Ça, c'est la prière efficace. Amen! Frères et sœurs, si vous prenez le temps de lire les prières de certains croyants dans la Bible, vous allez découvrir que ces croyants priaient comme s'ils voulaient mettre la main sur Dieu. En lui disant, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Quelle audace de la part de Jacob! Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te lâcherai pas dans mes prières tant que tu ne m'auras pas exaucé. parce que je sais que tu veux m'exaucer, tu le dis dans ta parole. Il faut avoir du culot hein, de la part de Jacob de dire ça. Hey, il parle à Dieu, là. Hey, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Dieu n'a pas dit, hey, tu te prends pour qui? Non. Dieu était content d'entendre son enfant qui lui dit ça. Quelqu'un qui persévérait. Il est en train de dire que je vais persévérer, je ne te lâcherai pas. Je vais persévérer dans mes prières tant aussi longtemps que tu ne me donneras pas ce que je veux, qui est conforme à ta volonté. Genèse 32, 26, ce verset. « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Frères et sœurs, combien de fois dans nos prières on dit ça au Seigneur? « Je te prie pour le salut de mon enfant. » Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. « Je vais te prier tant et aussi longtemps pour le salut de mon enfant, tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas sauvé. » Et Seigneur, je ne te lâcherai pas, parce que je sais dans ta parole que c'est conforme à ta volonté, puisqu'il est écrit que tu veux que tous parviennent à la repentance. Je n'ai pas à douter du salut pour mes enfants. Vous n'avez pas à douter. Ce qui manque peut-être, c'est peut-être la prière fervente. Non seulement Jacques parle ici de l'intensité de la prière, mais il parle aussi de l'intégrité de la prière. Encore une fois, le verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est à prédire la prière d'un homme qui a le cœur pur devant Dieu. » Quelqu'un pur devant Dieu, il n'y a rien que Dieu peut lui refuser. Certaines de nos prières sont un écran de fumée qui servent à cacher notre péché parce que nous n'avons pas l'intention de confesser notre péché. Frères et sœurs, nous voulons seulement que Dieu nous bénisse. On ne veut pas confesser nos péchés. On a peur de confesser nos péchés, on a même peur de mal paraître devant Dieu si on confesse nos péchés alors qu'il les connaît tous. Jean dit que nous devons confesser nos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. C'est une promesse. Voilà où se trouve la bénédiction, dans la guérison. T'es déprimé, bien viens voir tes frères et sœurs, on va prier ensemble. Confesse ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu dit, tu vas avoir la bénédiction, tu vas avoir la guérison. Guérison spirituelle, guérison physique, direction morale, guérison morale. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas cette confession, il ne peut pas y avoir d'intercession convenable, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants. Écoutez le reste, mais il écoute la prière des justes, de ceux qui ont un cœur pur. S'il y a du péché dans votre cœur, alors vous pouvez être certain que Dieu est à des milliers de kilomètres de vous. Psaume 66, 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, s'il y avait du péché dans ma vie, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas votre pasteur, je vous cite les Écritures. Psaume 66, 18, Ésaïe 59, versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Je cite encore les Écritures. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas entendre, mais c'est que Dieu ne veut pas entendre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais il est important pour moi que Dieu entende mes prières. Vous avez peut-être entendu comment on attrape les singes dans les îles des mers du Sud. On prend une noix de coco et on attache cette noix de coco à un panier, puis on creuse ensuite un trou dans le haut de la noix de coco, suffisamment grand pour que le singe puisse juste passer ses doigts dans le trou. Pourquoi le singe va-t-il passer ses doigts dans le trou? Parce qu'on a mis du riz au bord du trou. Et à l'intérieur, dans le fond de la noix de coco. Et le singe, qui veut, il veut manger le riz qui est à l'intérieur de la noix de coco. Alors, il va glisser sa main dans la noix de coco pour prendre une poignée de riz. Il va continuer, sa main, il va mettre sa main en boule, il va aller chercher le plus de riz possible dans le fond de la boule de la noix de coco. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, en ayant une poignée de riz, sa main, elle va augmenter de volume. Le problème, c'est qu'il est rentré sa main comme ça. Il n'est pas capable de la sortir. Il ne peut donc même plus retirer sa main du trou. Alors, qu'est-ce qui arrive? Celui qui a tendu ce piège, il s'approche tranquillement, puis il prend le singe, qui va finir dans son assiette. Vous pouvez penser qu'un singe est un animal stupide, puisque tout ce qu'il doit faire, frère et sœur, c'est de laisser tomber le riz. C'est tout ce qu'il doit faire. Mais il désire tellement le riz qu'à l'intérieur, que ça va lui causer la mort. C'est vrai, mais il ne le fera pas. Il va rester là à crier, à pleurer, à se lamenter, mais il n'ouvrira jamais sa main pour laisser tomber le riz. Je connais certaines personnes qui se présentent devant Dieu, frères et sœurs, et qui crient, qui pleurent et qui se lamentent, qui demandent à Dieu d'écouter leur prière, mais qui ne leur ouvriront jamais leur cœur pour lâcher ce péché qu'ils aiment tant, qui les maintient prisonniers. Elles ne le feront pas. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, dit le psalmiste, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il n'y a pas un seul péché qui vaut la peine de nous priver de voir les prières, nos prières être exaucées. Je le répète, il n'y a pas un seul péché qui mérite, qui vaut la peine de nous priver de voir nos prières ne pas être exaucées. Chers amis, pensez à l'intensité de la prière. Pensez à l'intégrité de la prière. Pensez à la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Frères et sœurs, c'est la sorte de prière que nous avons besoin d'entendre. Une dernière chose en terminant, Jacques a parlé de la confession qui précède la prière, de l'intercession qui reçoit une réponse à la prière. Il va maintenant nous donner une illustration qui prouve tout ce que je viens de dire, ou tout ce qu'il a écrit. Verset 17-18, il va prendre comme exemple celui d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dieu ne veut pas que nous passions à côté de cet enseignement. Aussi, Jacques va-t-il utiliser une illustration merveilleuse sur la prière qui guérit. Et afin de vous permettre de comprendre cette illustration, parce qu'on va terminer avec ça, je vous invite à aller dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Hein, le contexte, c'est bon, le peuple d'Israël baignait dans la maladie, il avait besoin de réveil, il y avait une sécheresse qui sévissait à cause des péchés du peuple de Dieu. Et au verset 42, hein, c'est le passage que Jacques mentionne dans son épître à partir du verset 42, où il dit que Élie pria et qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi. Voici ce qu'il dit, chapitre 1, roi 18. Achab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie le dit, répétait cela 7 fois. « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et il dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Frères et sœurs, qu'est-ce que tout cela nous enseigne? C'est l'illustration que Jacques souligne dans son passage. C'est l'exemple qui confirme ce que Jacques a dit. Si Dieu a entendu la prière d'Élie lorsqu'Élie rencontrait les conditions de Dieu, Dieu entendra la prière de Jacques lorsque Jacques répondra aux conditions de Dieu. Remarquez maintenant qui était la personne qui priait. C'était Élie. Et qu'est-ce que Jacques dit concernant Élie? Qu'Élie était un homme de la même nature que vous et que moi. Avez-vous déjà lu l'histoire de ces hommes dans la Bible? Vous est-il déjà arrivé de penser parfois qu'ils vivaient dans un monde différent du nôtre, qu'ils respiraient un air qui était différent du nôtre, et que quelque part, ils n'étaient même pas comme nous, et que Dieu leur avait accordé d'une certaine façon des faveurs qu'il ne nous a jamais accordées? Est-ce que cela vous a déjà effleuré l'esprit? Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà dit, eh bien, ils n'étaient pas comme nous, ces hommes. Jacques écrit, oubliez cela, ils étaient de la même nature que vous et moi. Élie n'était pas un homme extraordinaire, c'était un homme ordinaire. C'était un homme de la même nature que vous et moi. Dans le chapitre 18, ici d'un roi, il va remporter une grande victoire. Là, Dieu a été efficace. Et au chapitre 19, vous la voyez en train de fuir la reine Jézabel pour sauver sa vie. Il est tellement déprimé qu'il s'enfuit dans le désert où, après une journée de marche, il va s'asseoir sous un genêt et il va demander à Dieu de le faire mourir. Ce n'est pas des siècles plus tard. C'est un chapitre après que vu Dieu accomplir un miracle dans sa vie. Ça, c'est l'être humain. Et Élie était un homme comme vous et comme moi. Et ça me réconforte et ça me fait du bien de savoir que si Dieu peut répondre à la prière de quelqu'un comme Élie, il peut alors répondre à la prière de quelqu'un comme moi. Élie était un homme ordinaire, Il n'était pas parfait comme vous et moi. Remarquez maintenant non seulement qu'il est en train de prier, mais l'endroit où il prie, verset 42. Il est écrit qu'Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet d'une montagne. Et il se penche par terre. Contre terre, il met son visage entre ses genoux. Nous sommes en présence, frère, ici, de quelqu'un qui savait comment se retrouver seul avec Dieu. Il est monté au sommet du Carmel pour être seul avec son Dieu. Et Jésus nous rappelle cela dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père, qui est là dans le lieu secret, qui est là, qui vous entend. Frères et sœurs, voici un homme qui savait comment se retrouver seul avec Dieu pour prier. Et c'est l'illustration que Jacques nous donne dans son épître. La personne est une personne ordinaire qui est de même nature que vous et moi. Et il y a trouvé un endroit où il pouvait se retrouver seul avec Dieu. Et c'est difficile dans notre époque de trouver un endroit où on peut se retrouver seul avec Dieu si on garde notre GSM dans nos poches, si on dort avec notre GSM, si on va aux toilettes avec notre GSM. C'est très difficile pour nous d'avoir un endroit secret pour prendre du temps avec notre Père Céleste. Amen. Je suis allé au pizza un dimanche, ça m'arrive plusieurs dimanches d'ailleurs, et il y avait un gars, il y avait quelqu'un, il y avait une toilette pour homme, et ce gars-là, il a mobilisé les toilettes, il a parlé une demi-heure son GSM, il était assis sur le trône, et il était une demi-heure, il a mobilisé, on était tous en ligne, on attendait pour rentrer. Et autant pour les chrétiens, le GSM nous empêche souvent d'être seuls avec notre Seigneur. On commence à prier, puis ça sonne. Et là, quand ça ne sonne pas, c'est des messages qui rentrent un derrière l'autre. Je suis content de ne pas être capable d'envoyer des SMS. Je fais juste accuser réception, je lis. Et sinon, je risquerais de passer ma journée là-dessus. Mes frères et sœurs, il lit ici, il nous donne un exemple, il prouve un endroit pour se retirer des foules. Comme Jésus a fait, va faire par la suite. Remarquez la position qu'il a prise pour prier, qu'est-il écrit au verset 42, il se penche contre terre, il se met son visage entre ses genoux. Nous sommes en présence de quelqu'un ici, frères et sœurs, qui s'humilie lui-même devant le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans 2 Chroniques? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, frères et sœurs, il ne s'est pas pavané devant Dieu. Voici un homme qui est penché contre terre, son visage entre ses genoux, qui se présente dans un esprit d'humilité, le cœur brisé devant Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est présenté courageux comme un lion devant Dieu? Devant Akab? Pardon. Parce qu'il savait se mettre à genoux devant Dieu. Et un homme qui sait se mettre à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Amen. Quelqu'un qui sait se tenir à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Regardons encore une fois le verset 42. Il est écrit qu'il se pencha contre terre et qu'il mit son visage entre ses genoux. Je vois un homme animé d'une grande ferveur pour Dieu. Il est étendu. En fait, c'est ce que David faisait aussi dans les psaumes. David se mettait à genoux et il s'étendait complètement de tout son long. De tout son long. Et ça rappelle quoi quand on est tendu de tout notre long pour prier le Seigneur? Je ne suis que cendre et poussière. Je ne suis que cendre et poussière. Je suis rien. Et Seigneur, tu daignes porter un regard sur moi. Et Seigneur, tu daignes ouvrir tes oreilles, tendre l'oreille, nous dit le psalmiste, pour nous écouter. C'est ce que Jacques sous-entend lorsqu'il parle de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Être passionné lorsque nous prions. Prier, c'est chercher. Prier, c'est demander. Prier, c'est frapper. Vous dites, je ne crois pas que le Seigneur veut que nous prions avec autant d'émotion. Je ne crois pas que le Seigneur veut que nous prions avec autant d'intensité. Tournez dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Alors peut-être que vous savez mieux prier que le Seigneur Jésus. Permettez-moi de vous montrer comment le Seigneur Jésus a prié dans Hébreux chapitre 5, verset 7. J'espère que quand j'ai dit le trône, ce n'est pas vulgaire ici, non? OK, merci. Un autre continent, d'autres mots, d'autres, ça veut dire autre chose. Merci de me réconforter. Il est écrit... Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui a dans les jours de sa chair. C'est lui, Jésus, alors qu'il était un homme, comme vous et moi. Ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et regardez, frères et sœurs. Jésus, le Seigneur, ne l'a pas exaucé parce qu'il était Dieu fait homme. Regardez. Souvent, on est là, on se compare à Jésus, mais on se dit, oui, mais écoute, Jésus est là, nous, on est là. Non, non, non. Voyez-le dans son 100% homme. Pourquoi Dieu l'a exaucé? Chapitre 5, verset 7. Parce que Jésus avait un cœur pur. C'est ce qu'il dit, à cause de sa piété. Mettez le 100% Dieu de côté. On en a déjà discuté de ça, hein? 100% Dieu, 100% homme. Dans son 100% homme, si il est 100% Dieu, il n'a pas besoin de prier, hein? Il n'a pas besoin d'être connecté direct avec Dieu. Mais dans son 100% homme, il a besoin du soutien de son Père ici. Et il va prier avec des larmes, nous dit le texte ici. Avec des cris. Avec des supplications. Et il s'adresse au seul qui peut le sauver, nous dit le verset. Et Dieu va l'exaucer, pourquoi? À cause de sa piété. Amen. Frères et sœurs, quand on a le cœur pur, c'est la volonté de Dieu d'exaucer nos prières comme il a fait avec Jésus. C'est la volonté de Dieu, notre Père, de le faire. Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Il fait partie de la même famille que nous. Il a ouvert la même bouche que vous et moi, dans son 100% homme. Et Dieu l'a exaucé. Faites connaître ses besoins à Dieu, et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Parce qu'il avait le cœur pur devant son Père. Et je termine, hein? C'est la deuxième fois que je le dis, c'est la bonne. Regardez ce qui est écrit au verset 43. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie a répété 7 fois, « Retourne. » En d'autres mots, Élie ici va prier à chaque fois pour la pluie, il a prié 7 fois. À 7 reprises, il a dit de retourner. À chaque fois que le serviteur y allait, qu'il revenait, il y priait. « Seigneur, fais tomber la pluie. » Et le serviteur retournait, il revenait. À chaque fois, il y priait. « Seigneur, fais tomber la pluie. » Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Oh Dieu, envoie la pluie, nous avons besoin que la pluie tombe. » Et là, « Seigneur, serviteur, va voir si tu vois un nuage. » « Aucun nuage, pas de problème. » « Seigneur, envoie de la pluie. » « Seigneur, entends ma prière. » Va voir, serviteur, ce n'est pas un nuage qui apparaît. Il a prié à 7 reprises. Il n'a pas arrêté de prier tant et aussi longtemps que Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Quel modèle pour nous! Luc 18, chapitre 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je ne peux pas vous dire pourquoi Dieu veut qu'on prie toujours. Je ne peux pas vous dire pourquoi nous devons parfois l'importuner et demander à Dieu. Mais Jésus dit dans Luc 11, 9, et moi je vous dis, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Frères et sœurs, est-ce que Jésus est un menteur? Si Jésus n'est pas un menteur, le problème il est de notre côté. Et laissons le Seigneur examiner nos cœurs. Paul dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérer dans la prière et surveiller, c'est la même chose. Ésaïe 30, 18, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Tu pries, le Seigneur, sa grâce est exaucée. Vous vous imaginez, je vous l'ai dit, hein, Georges Muller a raconté à la fin de sa vie que Dieu l'avait exaucé, avait exaucé 10 000 de ses prières. Faites ce test aujourd'hui pour vous voir comment vous allez être béni. Vous prenez une feuille, une grande feuille, vous la coupez en deux, vous marquez la date, avec le sujet de prière et la date que Dieu a exaucé vos prières. Il y en a 10 000, lui, qui ont été exaucés. Il a prié pour le salut de 3 personnes, un pendant 35 ans, qui s'est converti, un autre un petit peu avant, et le dernier s'est converti après sa mort. Dieu l'a exaucé, parce que c'est la volonté de Dieu de sauver les gens. Dieu n'est pas méchant au point de vouloir envoyer les gens en enfer, au contraire, il a tout fait pour leur épargner l'enfer. Les gens ont déjà assez de misère sur la terre, sans plus qu'on les rabroue avec l'enfer. On est là pour parler du royaume de Dieu. On est là pour parler de l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ et du paradis perdu par Adam que nous allons retrouver à la fin des temps. Frères et sœurs, regardez ce qui est écrit au verset 45. La 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Hey, c'est pas gros, là, hein? Élie l'a vu, c'est les yeux de la foi. Il a vu un nuage pas plus gros que la paume d'une main. Vous savez à quelle hauteur que ce nuage-là se trouvait? Il l'a vu, pas plus grand que la paume d'une main. Lui, il l'a vu avec les yeux de sa foi. Et qu'est-ce que le texte nous dit ici? Et il dit, monte, il dit à Acab, écoute, attelle tes chevaux, puis descends plus vite, parce que tu ne seras pas capable d'y aller tellement que ça va tomber. C'est ça que ça veut dire en français courant. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y a eu une forte pluie. En conclusion, frères et sœurs, voici l'exemple que Jacques nous donne lorsqu'il veut nous montrer comment prier pour la guérison. Dieu ne veut pas toujours guérir. Bon, ça c'est clair. Dieu ne veut pas toujours guérir. Comment prier pour la guérison? Pardon, Dieu ne veut pas toujours guérir. La preuve, on a Paul. 3 fois, j'ai prié Dieu de m'enlever cette écharpe. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Frères et sœurs, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la maladie, ce que Dieu cherche avant tout, c'est que si dans la maladie, il peut être plus glorifié à travers nous que quand on est en santé, vous pouvez être certain d'une chose, la maladie va durer. Tout ce que Dieu veut chez ses enfants, c'est de se glorifier. Se glorifier. La preuve, quand on est en santé, souvent Dieu... Ouais. Deuxième, il y a le troisième, il y a le cinquième, il y a le dixième, on n'y pense même pas des fois. Mais là, il y a une petite cellule qui décide de mal fonctionner, on attrape une maladie, et whoop! Hein, c'est ça qu'on fait, hein? Oh, Seigneur, je te demande pardon, je t'ai oublié pendant tant de mois. Oui, hein? Le Seigneur, il est patient. Il va nous guérir. Mais à un moment donné, le Seigneur est patient, mais elle a aussi ses limites, sa patience. Et s'il voit qu'il est plus glorifié quand on est malade, qu'on le prie plus souvent quand on est malade que quand on est en santé, bien, il risque de nous garder dans la maladie. Le Seigneur, il fait tout, frères et sœurs, pour sa gloire, uniquement pour sa gloire. Alors, oui, je dois dire que le Seigneur ne veut pas toujours guérir, que Dieu ne veut pas toujours envoyer la pluie, mais je peux vous dire que lorsque nous connaissons le cœur de Dieu, nous pouvons dire que trop souvent, nous ne voyons pas la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies parce que nous ne prions pas. Nous n'avons pas parce que nous ne prions pas. Comment prier pour la guérison? Jacques nous dit, la confession précède la guérison. Il dit que c'est l'intercession qui nous permet de voir Dieu manifester sa volonté dans nos vies. Et il nous fournit une illustration pour nous prouver ce qu'il dit. Frères et sœurs, Élie était un homme comme vous et moi, un homme ordinaire à travers qui? Dieu a accompli des choses extraordinaires. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu ordinaires. J'espère que vous avez la certitude avant de sortir de ce lieu ce matin que Dieu va accomplir à travers des hommes et des femmes ordinaires des choses extraordinaires. Et la chose la plus extraordinaire que Dieu peut accomplir à travers des hommes et des femmes qui sont ordinaires, c'est d'amener quelqu'un de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est de permettre à quelqu'un de passer des ténèbres à la lumière. C'est de permettre à quelqu'un qui est désespéré de recevoir cette espérance qui vient de Jésus-Christ. Amen. Dieu, à travers des hommes et des femmes ordinaires, va accomplir des choses extraordinaires à travers eux. Prions.